Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le diabète peut avoir d'importantes conséquences sur le quotidien des personnes qui en souffrent. Il faut apprendre à vivre avec une prise en charge à la fois régulière et au long cours. Surveiller son alimentation et pratiquer une activité physique. Éviter les complications et si elles surviennent, les traiter rapidement. Cette maladie chronique peut en effet à terme nuire à la santé du cœur, des yeux, des reins. Le diabète peut provoquer des neuropathies qui, lorsqu'elles atteignent les membres inférieurs, constituent une menace pour la mobilité en cas d'amputation des pieds. Tous ces risques associés au diabète sont encore accentués lorsque le dérèglement du niveau de glycémie est associé au surpoids, à l'hypertension artérielle. Tenir compte de ces complications, c'est comprendre tout l'enjeu de la prévention. Savoir par exemple ce qui dans notre quotidien peut être banni, amélioré, accentué, pour éviter ce qui contribue à perturber notre métabolisme. Sensibiliser les populations, améliorer l'accès au diagnostic pour éviter les prises en charge tardive et critique. Favoriser l'accès aux soins pour tous parce que certaines maladies, dont le diabète, ont pu être considérées comme des maladies de riches et que cela aussi, c'est un préjugé non seulement faux, mais aussi dangereux. Vos questions sur le diabète, 470 millions de personnes diabétiques en 2021, 4,5 millions de décès par an et une projection pour 2045 à 700 millions de malades du diabète. Prévenir le diabète, c'est donc essentiel, un enjeu de santé publique prioritaire, le contrôler aussi. Avec nous en studio, docteur Dominique Huette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de diabétologie endocrinologie au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph dans le 14e arrondissement et membre du conseil d'administration de l'association CAICEDRA, une ONG active au Sénégal oriental. Et puis tout à l'heure, on va donner la parole au docteur Ali Ada au Niger. Il est endocrinologue à Niamey.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Huette, j'ai cité ces chiffres plutôt spectaculaires. Mortalité due au diabète, perspective d'évolution pour les prochaines décennies. Et il y a cette tendance qui concerne spécifiquement l'Afrique. Ce sont des chiffres que vous nous avez donnés avant l'émission. 20 millions de personnes diabétiques en 2021, cette année. 47 millions annoncés en 2045. Comment on peut expliquer cette hausse phénoménale, 143%? Comment l'expliquer?
Alors on voit que le continent africain va être durement touché dans les années qui viennent pour plusieurs raisons. La première qui est que le dépistage va être de plus en plus important et donc on va trouver des cas. Car aujourd'hui, on annonce qu'il y a à peu près 60% des diabétiques africains qui ne sont pas connus, diagnostiqués et donc traités. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est la cause de cet emballement, de cette épidémie, entre guillemets, même s'il ne s'agit pas d'un facteur infectieux, c'est la transition nutritionnelle, c'est-à-dire qu'on l'évolution va être de quitter les campagnes pour arriver dans les villes, avec changement de mode de vie, aussi bien alimentaire que l'activité physique. Et quand on annonce qu'en 2050, 80% des gens seront en ville ou en périurbain, on voit qu'on n'a pas encore réglé ce problème.
Docteur Huette, on fait toujours la distinction, on commence par les bases toujours dans cette émission, entre diabète de type 1 et de type 2. Est-ce qu'on peut rappeler la différence le plus simplement possible ?
Oui, alors le diabète, donc c'est un excès de sucre et il est lié à la fabrication d'insuline. Alors dans le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'on va diriger des anticorps contre son propre corps et contre un organe qui est le pancréas qui fabrique l'insuline. Là, il y a une destruction complète du pancréas en quelques mois et à ce moment-là, on ne peut pas vivre si on vous injecte pas de l'insuline. Ça, c'est le diabète de type 1, c'est 10% des diabétiques. Et le gros, si vous me permettez l'expression, du bataillon est représenté par le diabète de type 2, où là, il n'y a pas ce phénomène auto-immun de destruction. Il y a au départ un pancréas peut-être un peu plus faible pour fabriquer l'insuline, mais surtout une très mauvaise utilisation de l'insuline par le fait qu'on est souvent très gros. Donc le tissu gras empêche la bonne action de l'insuline. Et deuxièmement, sédentaire, car on a montré que l'activité physique améliorait l'insuline et son action. Donc vous voyez que ces deux types de diabète assez différents, et qu'on est polarisé surtout sur le diabète de type 2, puisque 90% de nos diabétiques sont liés à ça, et on peut arriver à combattre cela en prévention par les règles d'hygiène de vie que vous avez rappelées au tout début.
Longtemps, on a dit diabète de type 1, enfant, jeune âge, et aujourd'hui, il y a une tendance vraiment inquiétante, c'est de voir des enfants atteints de diabète de type 2 de plus en plus nombreux. Est-ce qu'il s'agit toujours d'enfants en surpoids ?
Oui. Tout oui. à fait. C'est clair et net. C'est l'accès aux boissons très mauvaises, aux aliments très gras et la télévision ou les tablettes. Et c'est vraiment un cocktail qui est très, très mauvais. C'est comme ça que on parlait du diabète de la maturité pour le diabète de type 2, c'est-à-dire survenant à 50 ans. Maintenant, on a de plus en plus d'enfants de 10, 12 ans qui sont diabétiques. Alors, ça a une conséquence majeure. C'est que quand vous commencez un diabète à 10 ans, vous savez que vous allez avoir 50, 60, 80 années d'exposition au sucre. Si le diabète est bien contrôlé, c'est parfait. S'il est mal contrôlé, les complications vont arriver quand vous aurez 25 ans, 30 ans.
Ça veut dire une vie entière sous le signe du diabète, en tout cas. Une question d'une auditrice, docteur, sur Facebook. Sylvie explique qu'elle est âgée de 60 ans. On lui a diagnostiqué un diabète il y a 8 ans. Elle vit en France. Et depuis, toujours, elle urine beaucoup la nuit. Elle ne précise pas à quelle fréquence. Et elle se demande si c'est normal. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet, alors qu'elle est, on va dire, son diabète est soigné ?
Alors, le diabète soigné veut pas forcément dire diabète contrôlé. La première chose qu'il faudrait savoir, c'est si le diabète est contrôlé, c'est-à-dire des chiffres de taux de sucre le matin et surtout cette moyenne qui s'appelle l'hémoglobine A1C, qui est le marqueur sur 3 mois de l'équilibre du diabète. S'il est parfait, il faut rechercher une autre cause à ces mixtions nocturnes.
Ça peut être complètement différent.
Totalement.
Deux messages Facebook envoyés par des auditeurs de RDC qui concernent tous les deux l'alimentation. D'abord, Trésor, question très générale. Quels sont les aliments qu'on peut manger quand on est diabétique ? Ça, c'est vraiment très général.
Alors, l'alimentation du diabétique doit être quasiment identique à l'alimentation idéale de toute la population.
Équilibrée.
On ne supprime rien. Par contre, il y a quelques grands principes qui sont ne pas prendre de poids, et si on est en surpoids, perdre du poids. Et je vous rappelle que pour perdre du poids, c'est d'abord diminuer les graisses, parce que ce sont les graisses qui sont les plus caloriques. Et deuxièmement, faire attention au sucre qu'on appelait auparavant d'absorption rapide, puisqu'ils peuvent faire monter la glycémie, mais c'est essentiellement le poids qu'il faut ramener à la normale.
Hervé explique que son père, toujours de RDC, souffre du diabète, mais qu'il a du mal à respecter justement cet équilibre, ce régime alimentaire. Il demande comment l'aider. Est-ce que toute la famille doit se mettre, aussi c'est bon pour toute la famille, de se mettre à un certain équilibre alimentaire ?
Alors, c'est la première chose à faire, généralement, parce qu'encore une fois, l'alimentation du diabétique est celle que tout un chacun devrait adopter. Et deuxièmement, pour essayer d'aider les gens, on leur apprend, nous, à se servir de lecteurs de glycémie qui permettent de voir un petit peu le taux de sucre. Et on leur demande de faire des tests, de voir, de par exemple, manger des gâteaux très sucrés. Et une heure et demie après, prendre leur taux de sucre. Et là, ils vont visualiser quelque chose. Que le problème du diabète, c'est que souvent, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et là, on a un symptôme visuel qui va être l'élévation de la glycémie.
Tout à fait. C'est très important. Docteur Huette, on va tout de suite donner la parole à d'autres auditeurs, mais cette fois de vive voix.
RFI un bon Dakar, 104.9 FM.
C'est donc en RDC qu'on vous retrouve. Regan, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste, bonjour.
Bonjour, alors vous avez 29 ans, Regan. Depuis combien de temps avez-vous été diagnostiqué ? On vous a dit que vous souffriez de diabète.
Madame, j'ai quand même suivi l'émission et je suis d'abord reconnaissant de cette émission. Ça fait déjà plus de 3 mois que je suis diagnostiqué diabétique et j'ai du mal à manger et surtout les repas. C'est déjà plus de 3 mois. Mais auparavant, avant d'être diagnostiqué, parce que j'ai senti un peu de symptômes, de faiblesse, tout qu'on sort, il faut beaucoup manger, tout qu'on sort. 5 mois avant, mais après avoir diagnostiqué, c'est déjà 2 à 3 mois, je crois.
Vous dites j'ai du mal à manger, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez du mal à changer vos habitudes alimentaires ou vous avez du mal à vous alimenter tout simplement? Vous n'avez pas faim. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Ok, merci madame. D'abord, après avoir été diagnostiqué, le médecin m'a prescrit d'autres nourritures que je ne peux pas manger, telles que les aliments, des viandes un peu très fraîches, tout qu'on sort, des sucrés, des oranges. Tout ça, je ne peux pas manger. Et moi-même, je respecte. Mais ça me cause toujours des problèmes parce que du fait que moi-même, je ne suis pas un médecin. Moi, je suis un économiste. Je ne sais pas comment les nourritures, on peut manger ou on ne peut pas manger. Il m'a prescrit quelques nourritures. Il m'a donné des idées sur quelques nourritures. Mais jusqu'à maintenant, je suis comme étant un homme à tantôt plutôt. Je peux manger cela, croire que c'est hors du danger. Or, je me sens toujours très affaibli. Et c'est comme ça que ça se passe. J'ai vraiment du mal à maîtriser les nourritures que je ne peux pas manger ou que je peux manger.
Souvent, excusez-moi, Regan, vous dites on vous a diagnostiqué il y a quelques mois. Est-ce que depuis, on a à nouveau contrôlé votre diabète pour voir si les règles que vous suivez, ça marche ou ça ne marche pas?
Ok, madame, sur ça, je n'ai pas encore fait les examens, mais sauf qu'après avoir pris le médicament traditionnel, je me sentais en forme comme état normal par rapport au début. Mais pour l'instant, ce qui me cause des problèmes, c'est-à-dire quoi? J'ai d'autres fruits. Dès que je mange ce fruit, à un certain moment, je me sens que c'est comme si il y a des sucres dans ces fruits.
Ça veut dire, excusez-moi, Regan, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour soigner votre diabète, il y a les conseils pour l'alimentation et la médecine traditionnelle. Mais pour l'instant, il n'y a pas de médicaments, c'est ça?
Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de médicaments, sauf que j'ai pris le médicament traditionnel. J'étais soulagé, j'ai dit clair, j'étais soulagé. Et je me donne la peine de respecter la nourriture. Mais ce qui me fait mal est que d'autres nourritures par rapport à ce que le médecin me donnait, parce qu'il n'a pas donné toutes les nourritures.
Pour vous, les conseils n'étaient pas assez complets, mais en même temps, si vous n'avez pas les moyens après de contrôler comment ça se passe dans votre corps, peut-être qu'il faudrait un petit peu retourner chez le médecin. Docteur Dominique Huette, vous avez suivi ce que nous a dit Regan. On lui a donné des conseils, on va dire, parcellaires, pas tout à fait complets. Il est un petit peu perdu dans son alimentation. Et puis, il n'a pas voulu prendre de médicaments, il a voulu aller chez le tradi. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un suivi pour voir où il en est par rapport aux derniers mois. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, je crois que, comme pour beaucoup d'autres auditeurs, il faut savoir que le diabète, bien souvent, n'exprime pas beaucoup de signes cliniques. Et bien souvent, et c'est sûrement le cas de M. Regan, là, son diabète évoluait à bas bruit depuis peut-être 5, 6, 7 années. Et si l'on n'a pas des marqueurs que sont le taux de sucre pour vérifier que l'on est bien contrôlé, on ne peut pas avancer et on ne sait pas interpréter les signes qu'on peut présenter comme la fatigue, comme autre chose. Alors moi, je suis pas du tout opposé aux médecines traditionnelles. Vous avez dit tout à l'heure qu'on travaillait au Sénégal oriental. Nous travaillons avec des guérisseurs, mais nous nous sommes mis d'accord pour dire que toute action devait être contrôlée au laboratoire. Parce que pour l'instant, les études sont très parcellaires pour savoir si ça marche vraiment
ou pas. C'est accessible de faire les contrôles régulièrement?
Oui.
C'est quelque chose qui est à la portée?
C'est quelque chose qui est à la portée maintenant. Peu cher et beaucoup de centres le font.
Regan, est-ce que vous êtes prêt à retourner dans un centre de soins pour aller faire ces fameuses prises de sang ou dans les urines pour vérifier? Qu'est-ce que vous conseillez plutôt comme test?
C'est surtout la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Alors ça peut être par une prise de sang intraveineuse ou tout simplement par une glycémie au bout du doigt qui revient à 20 centimes d'euros et on peut faire ça.
Regan, vous avez bien compris sur la nécessité d'aller vous faire contrôler?
Oui, madame, j'ai bien suivi, mais sauf que je suis aussi d'accord de médecin parce que avant que je puisse y aller à l'hôpital, je pesais trop de poids. Ça me donnait trop de poids parce que je mangeais un peu trop beaucoup.
Ouais.
C'est comme ça, moi, je pesais normalement 62 kilos. Mais dès que la maladie m'attaquait, j'arrivais jusqu'à 70 kilos, ce qui me donnait très mal. Et après le diagnostic et l'immersion, je me suis donné la possibilité de perdre toujours du poids jusqu'à ce que je suis arrivé à 60 kilos. C'est vraiment ce qui est important pour l'émission. J'ai bien vraiment suivi et je pense parfois, la semaine prochaine, je vais aller faire le test pour bien préciser ce qui
me... Une très bonne résolution, Regan, et le docteur Huet voudrait ajouter un mot.
Oui, je pense que vous êtes sur la bonne voie, parce que la perte de poids volontaire est une des bases du traitement et ça peut nettement améliorer l'équilibre de votre diabète. Donc je crois que il faut maintenant vérifier que ça marche bien. Et deuxièmement, je crois qu'il faut pas hésiter à réinterroger votre médecin pour que les choses soient bien claires sur ce que vous avez le droit et pas droit, en sachant que nous sommes opposés, on va dire, au régime punitif. On n'interdit rien, mais il faut connaître les aliments qui sont trop riches en graisse et trop riches en sucre. Et il y a beaucoup d'aliments contenant des sucres et des graisses polyinsaturées mauvaises. Donc je crois qu'il faut refaire un petit point, c'est la base. Ce qu'il faut savoir, que votre traitement va reposer beaucoup sur l'alimentation. Et donc il est important que l'on vous mette dans les mains toutes les connaissances pour pouvoir gérer ça vous-même.
Vous avez besoin de bonnes explications. Merci beaucoup, Regan. On part pour Brazzaville, retrouver Rodrigue. Rodrigue, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous avez 42 ans, vous avez été diagnostiqué en 2018. Où en est aujourd'hui, Rodrigue, votre diabète?
Bon, mais ça évolue très bien, mal. Hein. Je suis toujours sous traitement.
Oui.
Je continue à prendre des médicaments. Sauf qu'il arrive que je suis un peu controversé par rapport à mon entourage et au médecin. J'ai interrogé mon médecin. Il faisait savoir que les fruits, c'est pas mauvais. Il m'interdit aucun fruit. Il pense que je peux manger, mais sauf que je dois prendre les fruits au repas. Bon, avec une quantité modérée. Il s'avère que quand je suis dans mon entourage, puis certains qui sont comme moi de la même chose que moi, me disent non, dans leur cas, il y a certains fruits qu'il faut prendre, d'autres on ne peut pas prendre. Voilà. Bon, moi, j'ai un souci, je suis un peu... Je consomme beaucoup de papaye, hein, j'aime bien la papaye, à tel point qu'à un moment donné, ça commence à m'inquiéter, et je suis tombé sur un document qui parle de l'avocat. Il s'avère que pour moi, l'avocat qui a plein de graisse. Mais dans le document, on me fait savoir que l'avocat, c'est bien.
Sur Internet, vous avez eu ces informations, c'est ça, hein?
C'est sur Internet.
Voilà. Donc, en fait, vous êtes tiraillé entre les conseils de votre médecin, les infos que vous allez piocher sur Internet et ce qu'on dit dans la famille, à table, dans l'entourage. Et vous, là-dedans, vous n'arrivez plus trop à vous y retrouver, c'est ça?
C'est cela.
Sur la papaye, docteur Dominique Huet, qu'est-ce que vous pouvez dire à Rodrigue? Ça passe ou ça casse?
Comme pour le reste, je crois que il faut connaître un petit peu la teneur des... On parle de fruits, là, en sucre, et on voit ceux qui sont très sucrés, et la papaye en fait partie, il faut la prendre avec modération. Alors, modération, ça veut dire qu'on a le droit à 3 fruits par jour, sauf si vous avez des papayes de 500 grammes, où là, il faudrait sûrement en prendre le quart.
Voilà.
Mais l'apport en fruits pour chaque personne est de l'ordre de 3 fruits par jour à prendre, et de préférence au moment des repas, puisque ça fait moins monter le taux de sucre. En sachant qu'il y a des fruits qui sont beaucoup plus riches en sucre que d'autres, et on va privilégier ceux qui sont moins riches en sucre, on pourra en prendre un petit peu plus. Mais pour revenir à sa question, il y a beaucoup de patients qui sont comme lui, c'est-à-dire tiraillés par l'entourage, qui propose des solutions qui sont pas toujours très bonnes, et on a parfois beaucoup de mal à tenir la route et rester dans la ligne droite, parce qu'il semble que vous êtes bien, on va dire, un bon élève bien compliant, et que les difficultés viennent plus de votre entourage ou d'Internet.
Faites confiance à ce médecin qui vous a donné a priori des bons conseils. Rodrigue, vous aviez aussi une question sur la santé de vos pieds, c'est bien ça?
Oui, je voulais aussi avoir l'information sur l'avocat. Est-ce que ça passe ou ça...
L'avocat.
L'avocat? C'est un fruit, entre guillemets, qui contient beaucoup de graisse, mais surtout qui est très calorique. Et donc, prendre beaucoup d'avocats risque de vous apporter une prise de poids qui, elle, sera vraiment néfaste pour votre corps et votre diabète. Donc, j'allais dire, avocat, pourquoi pas, mais c'est en aucun cas un traitement du diabète. Mmh. Et ce qu'on voit partir des fois sur des régimes avec 5 avocats par jour, c'est une hérésie médicale.
Mmh. Tous ces régimes monoproduits, ça n'a pas de sens. Hein. Le régime pomme, le régime ananas, le régime chou, tout ça, ça n'a pas de sens. Votre question donc sur les pieds, j'y reviens et j'insiste, Rodrigue, allez-y.
Oui, c'est l'apparition des pieds d'athlète. Mmh. Mais il s'avère que bien avant qu'il soit déclaré, de temps à autre, ça m'apparaissait quand même. Et du coup, dès que j'appliquais une pommade, et puis ça passait. Mais là, je constate que ça persiste parfois et ça a du mal à sécher. Donc. Et après, quand je sais de me renseigner toujours dans le cadre de mon entourage, je peux savoir que oui, certainement ça a un lien avec le diabète. Parce que généralement, quand gagner un peu de poids et puis après, à un moment donné, ça tombe aussi.
Alors, le lien entre le pied d'athlète, docteur Huette, c'est vrai qu'il peut y avoir avec le diabète des complications au niveau des pieds, mais est-ce que ça concerne le pied d'athlète?
Alors, on appelle le pied d'athlète, on ne l'appelle pas le pied diabétique, là, pour une fois. Le pied d'athlète, c'est essentiellement une mycose des champignons liés à la macération des gens qui ont des pieds avec une transpiration importante. Donc, il est vrai que quand le diabète est très mal équilibré, ça peut augmenter ce risque de mycose. Mais si le diabète est bien équilibré, et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, vous aviez déjà ces problèmes avant le diabète. Donc, ça repose d'abord sur la prévention. La prévention, c'est une hygiène des pieds correcte, bien se laver, surtout bien les sécher après, dans les espaces interdigitaux. Et souvent, on est amené à proposer aux gens de mettre une petite poudre qui va sécher. Alors, surtout pas de crème, parce que les crèmes vont macérer encore, mais des petites poudres à base d'antimycosique qu'on peut mettre entre les orteils ou même directement dans la chaussette, et puis tout rentre dans l'ordre. Mais surtout, bien se sécher les pieds.
Et en prendre soin. Merci beaucoup, Rodrigue. On part en Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est Drissa qui est avec nous. Drissa, bonjour.
Bonjour.
Alors, diagnostiqué depuis 5 ans, suite à quels symptômes, Drissa ?
Diabète type 2.
Oh là, il y a du vent autour de vous. Hein. Il faudrait vous rapprocher la bouche de votre téléphone. On va voir si on réussit à se débarrasser de ce vent. Je disais donc, suite à quels symptômes avez-vous été diagnostiqué ?
Symptômes, l'amaigrissement.
L'amaigrissement ?
Perte de poids, fatigue générale.
Et est-ce que vous avez changé certaines de vos habitudes depuis ce diagnostic ? Est-ce que vous avez été prise en charge ? Est-ce que vous avez, par exemple, des médicaments ?
Oui. J'utilise souvent glide et glucophage.
Alors, Drissa, quelles sont les questions que vous voulez poser à notre spécialiste du diabète avec nous en studio ? Allez-y.
Bon, généralement, le plus souvent, je ressens un peu souvent l'échauffement, les plans des pieds. Donc, c'est ce qui me préoccupe un peu.
J'ai une question, Drissa. Depuis le début de l'émission, on entend cette expression « diabète contrôlé ou pas contrôlé ». Vous, est-ce que vous suivez régulièrement votre diabète pour voir où en est son niveau ? Est-ce que vous avez, ou alors vous l'avez vu il y a quelques mois, voire quelques années, et depuis, vous ne contrôlez plus ?
Si, donc, je contrôle, ça va.
Et il est plutôt bon ?
Seulement, c'est les choses qui souffrent un peu, si ensemble, ça va.
Vous inquiétez-vous pour ces réactions au niveau des pieds pendant la nuit ? Vous avez des démangeaisons, c'est ça ?
Oui.
Et pourquoi vous posez des questions sur le rapport entre vos pieds et ce diabète ? C'est quelque chose dont vous a parlé votre médecin ?
Non, pas du tout. Je mange quoi, mais si j'avais dit ça pour lui, je me renseignerai éventuellement, c'est tout.
Je veux juste avoir ce renseignement. Docteur Dominique Huette, qu'est-ce que vous pouvez dire à Drissa ? Il l'a dit, c'est important. Hein. Un diabète contrôlé, mais des douleurs aux pieds la nuit. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Alors, on peut parler de douleurs liées aux nerfs. Et c'est souvent une petite complication du diabète qui va toucher les fibres des nerfs et entraîner ces sensations désagréables, en particulier la nuit, qui peuvent être des brûlures. Et souvent, ça traduit le fait que on a un diabète qui était méconnu auparavant, puisque pour arriver à avoir des complications de ce type, faut avoir au minimum 10 années d'évolution du diabète.
Ça veut dire qu'en fait, il a été diagnostiqué tardivement, puis contrôlé, mais on peut dire que le mal était un petit peu fait.
Alors, le mal est fait, mais il faut être optimiste. Oui. On sait très bien qu'on peut récupérer une grande partie des signes avec un diabète bien équilibré sur une durée de plusieurs années. Mmh. Et puis, deuxièmement, on va dire, de façon symptomatique, nous avons des médicaments pour tolérer cette douleur nocturne qui peut être très invalidante, empêcher les gens de dormir, etc. Mais donc, on revient à notre phase de départ qui est le problème du dépistage, souvent encore, hélas, trop tardif. C'est pas de la faute de monsieur, parce que souvent, on attend d'avoir des signes cliniques et souvent, le diabète est là depuis 5-6 ans auparavant.
Donc, c'est déjà une question qu'il peut poser à son médecin, d'avoir une pommade, par exemple, pour le soulager.
C'est pas une pommade, ce sont des comprimés.
Des comprimés.
Des comprimés.
Qui vont calmer ses démangeaisons.
Qui sont pas des antalgiques, mais qui sont des classes du style un peu anti-épileptique, mais qui sont données exclusivement pour ça, et ça peut marcher très bien.
Donc, il faut en parler à son médecin. Ouais. On vous remercie beaucoup, Drissa, docteur Huette. D'autres questions d'auditeurs juste après, une chanson, Carla Prata avec Owner. Without the ice goes bust down. Bust down. Been away for a minute, but I'm home now. Give you the time, but it's over. Your moment to shine, yeah, it's over. It's over, it's over. Step in looking like the owner. If you work hard, it's cause I'm the employer. All the money, money, see it coming closer. Closer, closer, closer. Step in looking like the owner. If you work hard, it's cause I'm the employer. All the money, money, see it coming closer. Closer, closer, closer. By my side, cause I only hang with the wise. Look at now, so what? Get up to then prosper. I was on a bus, need a Range Rover. Me and Jay Huss, look at what we've done. When I want my pockets fat, make him get sailing like. Take my mama shop and tell her don't look at the price. Buy myself expensive ring, cause every day I fight. Life give me lemons and I bite like Mike. You think I don't know? You wanna be my friend, my life is a show. But I never pretend I got my eyes open. Stay away from me, you're toxic, culprit. Take away my focus. Step in, looking like the owner. If you work hard, it's cause I'm the employer. All the money, money, see it coming closer. Closer, closer, closer. Step in, looking like the owner. If you work hard, it's cause I'm the employer. Priorité santé sur RFI, nous parlons toujours du diabète avec nous en studio pour répondre aux questions des auditrices et des auditeurs. Le chef du service de diabétologie et endocrinologie du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, docteur Dominique Huette. Et on retrouve à présent Ahmad en ligne du Tchad. Bonjour Ahmad.
Oui, bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour Ahmad.
Alors, à 29 ans, le diagnostic de diabète, il remonte à quand Ahmad ?
De cela, une année que je me suis diagnostiqué diabétique.
Vous aviez des symptômes à ce moment-là, quand vous avez eu ce diagnostic? Ça faisait plusieurs mois ou plusieurs années que vous aviez des signes?
Oui, oui, il y avait des signes pendant deux semaines complètes. Il y avait des signes comme trop envie d'uriner, trop envie de boire de l'eau, de brûler au niveau des pieds. Il y avait aussi des vomissements. Je suis parti voir un docteur. Il m'a fait l'examen de la glycémie, c'était 2,500.
Excusez-moi, Ahmad, est-ce que vous êtes en surpoids?
Bon, je pèse pour le moment 79 kilos.
79 kilos pour quelle taille?
Oui, pour 1,82 m.
Donc vous êtes grand. Justement, aujourd'hui, vous prenez des médicaments. Comment ça se passe, cette prise de médicaments?
Oui, oui, ça se passe bien. Je suis sur un antidiabétique, le Gilimax. Je prends un comprimé le matin et un comprimé le soir.
Et quand on vous a diagnostiqué, vous preniez d'autres médicaments?
Oui, oui, avant d'être diabétique, j'avais un peu des hallucinations. Je suis parti voir un médecin.
Oui.
il m'a mis sous la chlorpromazine, l'ergue active.
Oui.
Donc après 7 mois de traitement, les hallucinations sont disparues de mes filles.
Oui.
J'ai cherché à savoir pourquoi j'ai attrapé le diabète de sang très jeune. Je suis passé un peu fouillé, voir sur l'ergue active, voir et puis j'ai su que les effets secondaires de l'ergue active, il y a un risque de développer le diabète du type B.
Oui, ben moi je me tourne tout de suite vers le docteur Huet, je vais résumer hein, parce que la ligne n'est pas forcément très bonne. Vous disiez que depuis 8 mois environ, vous preniez un neuroleptique, vous avez regardé sur la notice, vous avez vu comme effet secondaire qu'il pouvait y avoir un dérèglement du taux de sucre. Mais ce que vous signalez comme signe du diabète au moment où vous êtes diagnostiqué, si je ne me trompe pas, docteur Huet, ce sont des complications qui arrivent un peu à long terme, non?
Oui, tout à fait. Alors maintenant, vis-à-vis du largactyl, qui est un neuroleptique, il n'entraîne pas directement l'élévation de la glycémie, mais par contre, chez quelqu'un qui a un risque d'avoir un diabète, le largactyl et tous ces neuroleptiques peuvent entraîner une prise de poids, et c'est par l'intermédiaire de la prise de poids que l'on va voir augmenter le taux de sucre. Donc je crois qu'il ne faut pas que vous vous polarisiez sur le largactyl, parce que quand on l'arrête, et ben le diabète reste, parce qu'il ne fait pas partie des très peu nombreux médicaments pouvant entraîner un diabète, et qui vont disparaître, et ce diabète va disparaître lorsqu'on arrête le médicament. C'est le cas de la cortisone, où dans certains cas, on peut voir la disparition du diabète. Mais hélas, dans l'immense majorité des cas, le diabète est là depuis quelque temps, et c'est une maladie chronique. Alors pour éventuellement répondre à la question « est-ce que je vais pouvoir guérir ?», la réponse est non. Est-ce que je vais pouvoir vivre normalement sans complications ? La réponse est oui, si votre diabète est bien équilibré.
Et Ahmad, vous avez une question aussi, c'est important, hein, qui concerne la sexualité. Je peux me faire votre porte-parole. Vous me coupez hein, si je me trompe. Une question sur la santé sexuelle et des problèmes d'érection associés au diabète, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, docteur Huet, est-ce que c'est un problème qui revient assez souvent en consultation ? Comment l'expliquer ? Et si possible, est-ce qu'il y a des conseils possibles ?
Alors, ça revient à quasiment chaque consultation. Si c'est pas évoqué par le patient, bah, c'est le médecin qui doit
l'interroger là-dessus, ouais.
Puisque il peut y avoir des troubles de l'érection. Alors, il faut aussi savoir que dans nos consultations de diabétiques, plus de 50 à 60% des diabétiques qui se plaignent de troubles de l'érection ont une érection qu'on va dire fonctionnelle, c'est-à-dire pas organique, qu'on va dire psychologique, comme dans la population normale. Et puis, il y a une partie de diabétiques qui ont des complications déjà très importantes, c'est-à-dire des artères bouchées, des nerfs détruits, où là, effectivement, on peut avoir des troubles de l'érection que l'on va traiter à l'aide de comprimés, à l'aide d'injections. Mais encore une fois, avant de faire un rapprochement sur des diabètes qui évoluent depuis 4, 5, 6 ans, il est rare d'avoir un lien retrouvé entre diabète et 10 érections.
Et c'est pas forcément associé, c'est pas forcément lié. Voilà, donc déjà, allez encore en parler avec un médecin, lui poser des questions et la trouver justement dans le cadre de cette consultation, un endroit où on arrive un petit peu à parler de ce qu'on a sur le cœur parce que c'est aussi très important. Vous remercie beaucoup Ahmad. On prend un dernier auditeur. À Bujumbura, au Burundi, on retrouve Bienvenue, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour, bienvenue.
Alors vous appelez pour l'un de vos parents, votre père. Il est diabétique depuis une vingtaine d'années, il a 68 ans. Pourquoi vous rappeler aujourd'hui ?
Oui, la question que je voudrais poser à l'invité est de savoir est-ce qu'il existe un temps limité pour utiliser l'insuline.
Parce qu'on a dit à votre père que ça faisait trop longtemps qu'il en prenait, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Avec quel effet sur la santé de votre papa?
Oui, dernièrement, il y a prescrit un examen des reins. Je me demandais si c'est peut-être à l'origine de cette longue durée qu'il a utilisé l'insuline.
Mais la question de la durée de l'insuline, c'est vous qui vous la posez ou c'est les médecins qui en ont parlé?
C'est un médecin qui en a parlé.
Et du coup, il est toujours sous insuline, votre papa, ou non?
Oui, on lui a réadmissions les mêmes médicaments, mais c'est un peu tardivement.
Donc ça veut dire qu'il est resté un moment sans insuline, il a fait une crise ? Il a été hospitalisé ?
Oui, arrivé à l'hôpital, les médecins, par crainte, ils refusent de lui prescrire l'insuline. Arguant qu'il devait d'abord l'hospitaliser pour suivre son état de santé.
Mais pourquoi ? Parce que votre père a arrêté de lui-même d'en prendre de l'insuline ?
Non. À un certain moment, quand il faut prendre de l'insuline, il y a tout un liste de processus qu'il doit d'abord faire pour s'en procurer.
Oui.
Vu que son médicament est terminé, un week-end, il n'y avait pas moyen.
D'accord, il était en rupture de stock, en fait.
Il était en rupture de stock, oui, voilà.
Et après, il a fait une crise.
Il a fait une crise, oui.
Ouais. On voit l'importance, justement, on perçoit toute l'importance de bien suivre le traitement. Docteur Dominique Huette, cette question, est-ce que... au long terme, l'insuline nuit à la santé de la personne diabétique.
Alors, nous venons là de fêter le centenaire de la découverte de l'insuline, qui a permis de sauver des enfants diabétiques de type 1 qui mouraient avant la découverte de l'insuline. Et donc, nous avons 100 ans de recul du traitement par l'insuline. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de phénomène soit on appelle d'échappement, c'est-à-dire que l'insuline n'est plus active, ou de phénomène de toxicité qui apparaîtrait au bout de 30, 40, 50 ans. C'est pas rigoureux, mais je veux dire que moi, dans les patients que je suis, j'en ai nombreux qui sont à l'insuline depuis plus de 50 ans.
Les complications, c'est pas lié à l'usage de l'insuline.
Pas du
tout. C'est lié à autre chose.
Pas du tout. Alors, pour répondre à Monsieur Bienvenu, et il faut aussi savoir que la population diabétique vieillit et que bon nombre de comprimés ne sont plus indiqué lorsqu'on est âgé, et donc on met de plus en plus, au contraire, les personnes âgées à l'insuline, puisqu'on a une plus grande facilité d'équilibrer le diabète. Donc ça va un petit peu à l'opposé de ce qu'on propose à votre papa.
Donc il faudrait retourner en fait à son traitement initial. Hein.
Exactement.
Et en veillant, hein, puisque vous êtes aussi là, on a bien compris, si vous avez passé le coup de fil pour lui, bienvenue, pour l'aider dans son traitement, à faire en sorte qu'il ne se retrouve pas sans médicaments, y compris le week-end, parce que on voit que ça peut être dangereux pour lui. On vous remercie beaucoup pour cette question. Et docteur Huette, on va partir tout de suite pour le Niger.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Un confrère en ligne, c'est vous, docteur Ali Ada, bonjour.
Bonjour madame.
Alors docteur Ada, vous êtes endocrinologue à Niamey. En début d'émission, on parlait de la tendance mondiale, hein, ces chiffres du diabète, importante augmentation du nombre de cas. Est-ce que c'est la même chose dans un pays comme le vôtre, le Niger ?
Oui, malheureusement le Niger n'est pas épargné. À l'instar de la plupart des pays africains, les pays subsahariens, la prévalence du diabète va galopante, particulièrement au sein de la population urbaine, donc qui a une modification de conditions de vie. Je vous donne un exemple. Il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, la prévalence était estimée autour de 2%. Et il y a à peu près 5 ans, ça doit être en 2015, elle est passée déjà à 4,3%. C'est pour vous dire que en moins de 20 ans, la prévalence a doublé.
D'autant plus que depuis le début de l'émission, on souligne justement les retards de diagnostic, voire l'absence de diagnostic. Et pourtant, on a compris à quel point c'est important pour éviter toutes ces complications. Est-ce que vous aussi, en consultation, vous prenez des personnes, on va dire, qui arrivent très tard dans leur maladie ?
Hélas, oui, malheureusement. En ce qui concerne la population urbaine, le plus souvent, ils sont informés, ceux qui sont instruits ont des bribes de connaissances sur la maladie, ou bien quand on est issu d'une famille héréditaire, on sait que on est susceptible d'attraper la maladie. Dès qu'ils ont des signes, ils consultent spontanément. Mais c'est pas le cas des patients de la zone rurale qui d'abord ignorent la maladie. Mais en plus, si c'est confirmé, d'abord, pour avoir accès, il faut un centre de santé à côté qui est les moyens encore de dépister et de confirmer la maladie, mais en plus avoir les moyens de prise en charge, d'observer le régime, c'est toutes ces contraintes qui font que souvent le diagnostic est tardif. Quand il est fait, on essaie tous les autres moyens, notamment la pharmacopée traditionnelle, si bien que effectivement il arrive des malades qui viennent avec des complications qui peuvent être aiguës. Souvent pour les petits diabétiques de la campagne, c'est généralement en phase de coma acido-cétosique qu'on fait le diagnostic inaugural. Et mieux, vous avez souvent des complications dégénératives qui commencent déjà au moment où vous voyez le patient. Puisque l'histoire de l'hyperglycémie, souvent avant le diagnostic, peut prendre plusieurs années auparavant.
Des problèmes de vue, des problèmes aux pieds carrément?
Voilà, voilà. Vous avez par exemple des troubles de l'acuité visuelle qui peuvent être induits par l'hyperglycémie, mais dans une étude qu'on a faite, on a même trouvé des débuts de rétinopathie diabétique alors que le diabète était méconnu par le patient.
Ça veut dire qu'il était déjà là depuis très très longtemps.
Oui, il vivotait avec ses 2 grammes et quelques. Et puis voilà.
Donc dans des conditions difficiles. On comprend qu'il y a un problème de sensibilisation, d'accès aussi à l'information. Est-ce qu'il y a aussi des fausses croyances qui concernent le diabète? C'est vrai qu'en général, on parle de tel ou tel aliment miracle. Internet diffuse beaucoup d'informations en ce sens. Il y a aussi les familles qui essayent de faire bien, mais des fois qui donnent des informations qui ne sont pas forcément exactes. Vous, il y en a qui remontent jusqu'à vous, y compris quand on est en consultation?
Ah, ben c'est notre pain quotidien, j'allais dire, parce que vous savez, la société est au courant de cette maladie, puisque c'est quand même une pandémie. Chacun a sa petite idée suivant qu'il a lu Internet ou que le voisin lui a dit, et qui ne sont pas forcément les bonnes idées. C'est souvent des idées à consonance catastrophique, c'est une fatalité, tu es condamné, c'est une maladie grave. Bon, bien sûr, on lui donne un caractère assez gravissime. Et pour certains, c'est dit que les jours sont comptés, je suis diabétique, je ne peux pas me prendre en charge avec tout ce qu'on... Et on est obligé, c'est un des points, j'allais dire, à la consultation, il faut prendre le soin d'expliquer aux malades que ce n'est pas forcément une fatalité et il faut balayer toutes ces croyances fausses qui sont véhiculées. Et je crois que c'est important non seulement de le faire à titre de médecin consultant dans son cabinet, mais de passer par une association de diabétiques ou un autre plein, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, pour essayer de dissiper ces fausses croyances et donner les informations crédibles et stimulante et plus optimiste pour les malades pour qu'ils puissent être pris en charge correctement.
Pris en charge avec un diabète contrôlé, on a compris à quel point c'était important, mais on va dire qu'il y a quand même la question de l'accès au traitement qui est essentielle. Est-ce que vous avez un message, ce sera le mot de la fin, à faire passer sur cet accès au traitement dans le contexte du Niger?
Oui, pour l'accès au traitement, je pense que, vous savez, les maladies chroniques, que ce soit le diabète ou l'hypertension artérielle, ce sont des maladies toute la vie. Or, quand vous prenez le niveau de vie du Nigérien commun, ce n'est pas grand-chose. Je peux dire qu'un mois de traitement peut consommer pratiquement ce qu'il gagne par an.
L'intégralité du salaire.
Exactement. Il faut absolument l'intervention de l'État. Et je pense qu'elle peut le faire maintenant qu'il y a des médicaments génériques qui ne coûtent pas cher, à travers une subvention, même à défaut d'une mise à disposition gratuite, au moins demander une contribution raisonnable aux patients diabétiques.
Parce que c'est un enjeu de santé publique.
C'est un enjeu de santé publique. Et ceux qui ont l'accro sur la pharmacopée traditionnelle, faire un effort de développer, parce qu'il y a certaines plantes, effectivement, qui ont un effet hypoglycémiant, essayer de débroussailler pour permettre quand même l'utilisation de cette médecine avec beaucoup plus de sécurité.
Parce qu'on peut aussi s'appuyer sur les produits et les connaissances locales, à condition, bien sûr, de connaître les bons dosages, les bons usages, parce que même si on dédramatise sur la maladie, évidemment, c'est essentiel d'être bien suivi. On vous remercie beaucoup pour toutes ces explications, docteur Ali Hada. Je rappelle que vous êtes endocrinologue à Niamey au Niger. Docteur Huette, on arrive à la conclusion de notre émission. Je voyais réagir à ce que disait votre confrère à l'instant, notamment sur cette question de l'accès aux médicaments. C'est toujours quelque chose d'essentiel.
C'est toujours quelque chose d'essentiel, effectivement. Même En amont, il y a l'accès au dépistage, puisqu'il nous a bien rappelé que beaucoup de gens arrivaient encore au stade de complication. Ça veut dire qu'on avait 10 ans de retard. Donc en diabétologie, on est souvent à courir après le temps, puisque les gens arrivent 10 ans après.
Ça veut dire qu'à un âge précis, tout le monde devrait à un moment donné se faire un contrôle.
Alors, ce sont les recommandations. Et je vais vous rappeler qu'en France, aujourd'hui, il y a encore 10 à 15% des gens chez qui on diagnostique un diabète et qui ont déjà soit une petite atteinte rénale, soit une atteinte des yeux. Donc à 50 ans, tout le monde devrait avoir un dépistage.
Obligatoire, parce que là, voilà. Comme ça, même si c'est à bas bruit, même si c'est muet, on peut avoir des signes. L'importance d'être mieux diagnostiqué, il faut vraiment faire passer le message. Et pendant l'épidémie de Covid, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, docteur Dominique Huette, savoir si les autres maladies passaient au second plan. Vous, est-ce qu'il y a eu des conséquences pour la prise en charge des patients? Est-ce que c'est quelque chose dont on a parlé entre diabétologues, savoir comment continuer à contrôler les patients qui parfois nécessitent un suivi absolument indispensable?
Alors, bien entendu qu'on en a parlé, puisque c'était un gros souci, puisque nous sommes dans les hôpitaux parisiens. Et au mois de mars, les services de diabétologie ont tous été transformés en hôpital de prise en charge du Covid. Ça veut dire que, certes, les urgences aiguës majeures du diabète étaient encore prises en charge.
Mais pas les consultations.
Les consultations sont vite faites à distance. Mais par contre, tous les besoins des patients qui avaient besoin de réévaluation de traitement, de modification, de mise en route d'une pompe, de changement de traitement, cela ont été reportés plusieurs mois. Et donc, il y a un impact indiscutable. Et je crois que là, on est encore un petit peu trop tôt pour faire le bilan complet, l'état d'inventaire sur la mortalité annexe, on va dire, par rapport au Covid, mais ce sera fait. Et c'est le cas pour le diabète.
Un dernier mot, tout à l'heure vous parliez de ces 100 ans de l'insuline.
Oui.
Il y a quelque chose de particulier par rapport à ce produit, on parle d'accès aux soins. C'est que d'emblée, la personne qui a découvert, qui a fait cette trouvaille merveilleuse, l'a mis au service du public, et ça, c'est un message.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais
on n'en est pas là
à l'heure actuelle avec les vaccins, c'est quelque chose dont on parle.
Exactement, mais c'est quelque chose à souligner, parce qu'on critique
tout
souvent, mais derrière une bonne volonté, on peut avoir quelque chose d'absolument exceptionnel pour la santé mondiale.
Ce qui n'a pas empêché, ensuite, les laboratoires fabriquant l'insuline à faire de la recherche, du développement, de nous apporter des insulines de bien meilleure qualité au fur et à mesure. Donc tout est possible.
Tout est possible. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre émission dans les studios de RFI, docteur Huette, pour répondre à tous les auditeurs de RFI. On vous rend maintenant à vos patients. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout, Samake, Ophélie Lassen, Steven Elsley et Laurent Hérault à la réalisation. Demain, on va parler de la prise en charge des personnes âgées, l'âgisme, le regard de la société sur ses seniors, ses vieillards, changer ce regard, lutter contre les stéréotypes qui peuvent nuire aux soins. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.